Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité est l'écrivain Patrick Chamoiseau. On parle de son nouveau livre Baudelaire Jazz. Lisa-Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et Marc-Antoine Lebray sera avec nous pour clore l'émission. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Philippe.
Camille Jounot, bonjour.
Bonjour Philippe.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Et tous les jours, Bruno, vous observez ici les soubresauts médiatiques. Et ce matin, vous avez eu envie de rapprocher deux informations, a priori très différentes l'une de l'autre. La première concerne directement la vie des médias, la seconde, pas du tout.
Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre ce qui est arrivé aux présentatrices de la télévision afghane et la mort d'une immense artiste, l'icône du street art mystique. Je vous raconte. Ça s'est passé hier, au terme de plusieurs jours de résistance aux injonctions des talibans, toutes les femmes qui interviennent sur les chaînes de télé d'Afghanistan ont été contraintes de se montrer à l'antenne couvertes d'un voile intégral ne laissant plus paraître que leurs yeux. TF1 en a fait l'ouverture de son 20h hier soir et a donné la parole à Sonia Niazi, présentatrice de la chaîne Tolo News, qui a tenu à alerter sur le climat très inquiétant qui restreint chaque jour davantage les libertés des femmes dans son pays.
L'identité d'une femme ne doit pas lui être enlevée. Nous voulons que la société internationale entende notre voix et comprenne que les femmes en Afghanistan ne sont pas en sécurité.
La présentatrice a rappelé que depuis la reprise en main de l'Afghanistan par les talibans, les jeunes filles avaient maintenant l'interdiction formelle d'aller au collège ou au lycée. Et TF1 nous a fait entendre Polvak Sapai, le directeur de Tolo News, qui a raconté comment les talibans l'avaient on ne peut plus clairement menacé.
On nous a dit, vous êtes obligés de le faire. Vous devez le faire. Il n'y a pas d'autre option.
Voilà. Alors c'est donc dans ce contexte-là que j'ai appris en écoutant France Info hier soir la disparition d'une artiste merveilleuse qui a passé sa vie à peindre des femmes précisément sur les murs de nos villes.
La mort de l'artiste parisienne Mystique à 66 ans, c'est une des grandes figures du street art. Elle était connue pour ses œuvres au pochoir visibles dans les rues de la capitale, souvent des silhouettes de femmes brunes, sexy et poétiques.
Les femmes que dessinait Mystique étaient brunes et sexy en effet, mais elles étaient surtout incroyablement libres. Elles étaient irrévérencieuses et totalement insoumises, insoumises à toutes les formes de domination masculine. Alors, quand j'ai appris qu'il y avait désormais, en Afghanistan, un ministère chargé, tenez-vous bien, de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, et que c'est lui qui obligeait les présentatrices de télévision à apparaître intégralement voilées, j'ai repensé à tous ces pochoirs de mystiques que j'avais eu le bonheur de voir graffés, bombés sur les murs des rues, et je me suis dit qu'il faudrait peut-être les montrer à nos amis talibans. Oh, ils pourraient commencer tout doucement, hein. Tenez, avec celui-ci, par exemple. C'est un petit dessin qui montre une femme dont le col roulé est remonté jusqu'au-dessus du nez. On ne voit plus apparaître que ses yeux comme si elle était voilée. Et la légende qui est écrite dessous dit ça.
Assignée à résistance.
Puis il pourrait ensuite passer à celui-là. Il montre une très belle femme. Elle est orientale. Elle est uniquement vêtue d'un soutien-gorge et le texte nous dit
« Je rêve à des Orients sans machisme ».
Ensuite, les talibans pourraient enchaîner avec cet immense pochoir sur lequel on voit une femme en pied. Elle est de dos. Elle est merveilleusement belle. Elle marche vêtue d'une robe qu'elle écarte joyeusement pour nous montrer son cul nu sous lequel il est inscrit.
De mes frasques, je fais des fresques.
Enfin, Philippe, difficile de résister à la tentation de soumettre aux talibans l'idée d'aller jeter un œil à cette petite merveille de poésie. On y voit une femme qui a la tête en bas, les yeux bandés et les mains attachées par des menottes sous lesquelles on peut lire
« La censure est la formule ratée de la critique ».
Alors voilà, un jour peut-être, une femme ira taguer une œuvre de mystique devant la télévision afghane. Mais en attendant, et comme le dit très bien la légende qui accompagne le dessin de cette femme qui montre son épaule nue, et joliment tatoué.
Le monde est en dérangement.
Le monde est en dérangement.
Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain, on a reconnu la voix de Laure d'Autriche. Laure, justement, le programme de votre indispensable ce matin, ce sera aux alentours de 10h30.
Je vais vous parler de Wagner, d'un opéra de Wagner, Parsifal, qui commence demain à l'Opéra de Paris jusqu'au 12 juin. Et je suis allée dans les coulisses des répétitions. 130 chanteurs et musiciens, je vous raconte les coulisses.
Et puis Camille Jounot, la même question. Vous ouvriez des grands yeux en écoutant le récit de Bruno Donnet sur Mystique, que j'imagine vous appréciez.
Oui, je connais, ouais. Oui, j'étais très triste de sa disparition.
Votre indispensable aujourd'hui.
On va au Palais du Facteur Cheval pour un événement exceptionnel. Pour la première fois, le lieu accueille un artiste contemporain et pas n'importe lequel. Il s'agit de Jean-Michel Autoniel.
On croise les arts et on va le faire aussi dans quelques instants. Nous serons avec Patrick Chamoiseau. On va parler de son livre Baudelaire Jazz qu'on peut également écouter, vous allez comprendre. Mais on écoute d'abord le nouveau single de la Grande Sophie. C'est sorti vendredi. Ça s'appelle La Mer sur Europe 1.
9h. 9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Patrick Chamoiseau.
Bonjour.
Vous êtes écrivain français d'origine martiniquaise. Je le dis parce que vous ne manquez jamais de le rappeler. Prix Goncourt 92 pour le roman Texaco. Auteur de romans forcément, mais aussi de contes, d'essais, de BD, de livres pour enfants. Vous avez écrit pour le théâtre, pour le cinéma. La quatrième de couve de ce livre dit de vous, Patrick Chamoiseau est aujourd'hui l'une des voix les plus influentes de la Caraïbe et l'un des écrivains majeurs du monde contemporain. Rien que ça. Et votre actu, c'est justement ce nouvel ouvrage, Baudelaire Jazz. Il y a un sous-titre, Méditation poétique et musicale avec Raphaël Imbert, c'est publié au Seuil. Ce livre parle d'histoire, mais il a aussi une histoire. Sur la jaquette, il est indiqué « album numérique inclus », c'est-à-dire il y a de la musique dans les mots.
Il y a de la musique, c'est une lecture que j'ai faite de Baudelaire à partir de mes préoccupations, à partir de mon esthétique. Et pour rendre hommage à Baudelaire lors de ma résidence au musée d'Orsay, j'ai immédiatement pensé à Raphaël Imbert, qui est un grand musicien de jazz, qui a écrit un livre absolument magnifique sur le jazz, il s'appelle « Jazz suprême mm-hmm. » et qui m'a toujours beaucoup impressionné. Donc quand on m'a proposé cet hommage à Baudelaire, j'ai pensé à lui, la jonction s'est faite immédiatement. Ce qui fait que c'est à la fois un texte poétique et je dirais une improvisation musicale autour de mes méditations poétiques.
Alors justement, dans les dernières pages, il y a Baudelaire Jazz, l'album, il y a 6 titres, il y a un QR code. Si on n'a pas de QR code, on tape l'adresse internet, on entend de la musique, on va entendre quelques notes. C'est justement le titre qui donne son titre au livre, Baudelaire Jazz. Extrait. Jazz, ça s'appelle comme ça, vous en faites un verbe, il y a un E à la fin, c'est le verbe jazzer.
Oui, c'est surtout un esprit.
Ouais.
L'esprit du jazz, pour moi, hein, moi je ne suis pas un grand spécialiste du jazz, mais l'esprit du jazz, pour moi, c'est véritablement un esprit de liberté. Le jazz, c'est une forme de philosophie musicale qui permet pratiquement de tout mobiliser autour d'une improvisation.
On est bien d'accord.
Improvisation et composition.
Alors, je voulais juste dire, pour qui ne connaîtrait pas, qui n'a pas les dates en tête, qu'évidemment, Baudelaire est antérieur à l'invention du jazz. Il n'a pas connu le jazz dans sa vie. C'est un long poème, comme un long poème en prose, ce livre. 180 pages absolument impossibles à résumer, tant vous y ouvrez de portes. Et si on tente de le résumer, ce livre, on le réduit, on en perd la saveur. Alors, je vais commencer par une question très simple. Patrick Chamoiseau, quel rapport entre Baudelaire, l'esclavage et le jazz, puisque c'est un peu la thèse du livre.
Oui, c'est une lecture que je fais de Baudelaire, mais une lecture de là où je suis actuellement. Donc je suis des Antilles et je développe depuis déjà plusieurs années, en collaboration à l'époque avec Édouard Glissant, un imaginaire de la relation. Et avoir un imaginaire de la relation, en tout cas pratiquer un imaginaire de la relation, ça veut dire qu'on essaye d'avoir une autre lecture du monde. Très souvent, la vision globale que l'on a du monde est très largement une vision occidentale. Et jusqu'à maintenant, ce qui a été dit de Baudelaire est une vision occidentale de Baudelaire. Toute l'architecture critique que j'ai lue attentivement ramène Baudelaire à son univers occidental et le monde est absent. Donc il nous faut, d'une certaine manière, ramener Baudelaire à son étendue extraordinaire. Dans un poème qui s'appelle « Le cygne », Baudelaire à ce mot extraordinaire, il dit « Andromaque, je pense à vous ». Et le simple fait de penser à Andromaque va l'ouvrir pratiquement sur la totalité des souffrances du monde. Il va penser à une négresse malade, il va penser aux exilés, il va penser aux migrants, il va penser à tout le monde. Et il aura ce vers qui résume son œuvre, sa poétique, il va dire « Il a pensé à quiconque a perdu ce qu'on ne retrouve jamais. » Et quiconque a perdu, ça m'a renvoyé tout à fait à ces millions d'Africains que l'on radiait sur les côtes occidentales de l'Afrique pour les ramener dans les plantations esclavagistes américaines.
Et vous l'apostrophez ainsi, Baudelaire, dans les images qui nous sont communes, votre paquebot se mélange à 1000 autres navires plus anciens, bateaux de découvreurs, bateaux de conquérants et puis surtout bateaux de négriers. Pourquoi est-ce « et puis surtout »
C'est-à-dire que ce sont les bateaux qui, pour cette époque, étaient les plus importants. Je pense que le navire négrier, la trajectoire effroyable du navire négrier dans l'Atlantique, déchirait d'une certaine manière l'Atlantique, mais déchirait la conscience occidentale, mais aussi déchirait, je dirais, la vieille architecture du monde. C'est la naissance d'une modernité, de la modernité actuelle. Et ce nouveau monde qui, d'une certaine manière, était inauguré par l'horreur, Baudelaire l'a bien senti, l'a bien perçu, a été très, très actif et très, très précieux là-dedans.
La Martinique, Patrick Chamoiseau, l'enfance, on en parle avec Lisa-Marie Marquet, c'est le portrait pré-fame de Culture Média. L'émission continue à tout.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie de l'écrivain Patrick Chamoiseau, on parle de son livre Baudelaire Jazz. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa-Marie Marquès, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa-Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Patrick Chamoiseau.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de récits intimes, de romans d'essais, de pièces, de théâtre, de poèmes et de scénarios. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Patrick Chamoiseau, vous êtes né à Fort-de-France en Martinique et c'est là que vous avez grandi. Vous êtes le dernier d'une famille de 5 enfants et petit, vous éseillez, vous avez ce petit défaut de prononciation et vous vous réfugiez alors dans le silence, c'est vrai ?
Exact, exact.
C'est vrai ?
En plus, on avait une problématique linguistique, j'avais la langue créole, la langue maternelle. Et à l'école, il fallait utiliser la langue française. Mmh. Donc du coup, c'était un exercice extrêmement périlleux. Je préférais rester muet.
Parce qu'on se moquait de vous ?
Oui, parce que l'usage de la langue française, qui était un peu la langue, pas seulement de la civilisation, mais de l'humanisation, ne pas pouvoir la manier correctement est un signe de, je dirais, presque d'inhumanité. Donc le bien parler français a toujours été une des constantes de l'éducation aux Antilles. Mmh. Et du coup, la langue créole était refoulée. Donc c'était assez traumatisant quand même, lorsqu'on se retrouve avec une langue qui est la langue de votre imaginaire et qu'on ne peut pas l'utiliser et qu'on doit adopter une autre langue. C'est un drame, une tragédie linguistique.
À la maison, Patrick Chamoiseau, il y a les prix de l'école que remportent vos frères et sœurs. Des livres, beaucoup de livres que votre maman conserve dans une grande boîte de pommes de terre, une boîte fermée, cachée comme un trésor. Vous allez piocher vos premières lectures.
Ouais. Il n'y avait pas de bibliothèque à l'époque, donc il n'y avait pas de rayonnage. Et ma mère qui avait une sacralisation de l'école, donc sacralisation du livre, lorsque les beaux livres étaient ramenés, c'était de beaux livres illustrés, etc., elle les cachait comme un trésor. Et un jour, j'ai été fouillé un peu dans cette penderie, j'ai découvert la boîte de manière complètement autonome et ma rencontre avec les livres a été une rencontre entièrement libre. C'est d'ailleurs ce qui a fondé un peu mon esthétique et même ma poétique.
Vous aviez quel âge ?
Alors là, 10-11 ans, j'ai commencé à lire assez vite.
Vous vous plongez donc dans les prix de vos aînés, des livres qui vous marquent. Vous découvrez Rabelais, mais aussi Alice au Pays des Merveilles, Germinal. Vous développez votre imaginaire, un imaginaire de mots. Et vous découvrez dans les livres des fruits qui, pour vous, aux Antilles, sont exotiques. Les pommes, par exemple.
Non. Ah oui, ça c'était un délice absolument incroyable. Hein. Le dessert, ma mère, je m'appelle, elle achetait, on était 5. Ma mère achetait une pomme qu'on coupait en 5. Hein. On était très, très, très pauvres. Mais tous les fruits exotiques étaient pour nous absolument fabuleux. Tous les autres fruits qui étaient très abondants ne nous intéressaient pas. Parce que c'était l'ordinaire c'était le quotidien de la manière la plus plate. Par contre, la différence, l'exotisme, le lointain, tout ça, c'était précieux.
À la maison, il y a aussi votre père qui manie la langue française et vous fascine. Il lit à haute voix les fables de La Fontaine. Il vous donne le goût de la phrase et il vous voit. Il vous voit, vos frères et sœurs, et il vous voit même votre maman.
Ah oui, pourquoi ?
Je ne sais pas, le vouvoiement, c'était le...
C'était une tradition martiniquaise ou une tradition familiale ?
Je ne sais pas si ça existe ailleurs, ça doit exister, hein, mais c'est c'est la menace, quoi. C'est l'intimidation.
Sa famille à distance.
C'est une menace. Hein. Quand ma mère me vouvoyait, je sais que la volée n'était pas loin. C'est-à-dire qu'elle allait gueuler, etc. Donc le vouvoiement, c'était cette mise à distance. Et il utilisait aussi le prestige de la langue française à l'époque pour véritablement dominer ma mère, qui, elle, était plutôt créolophone et ne maîtrisait pas trop la langue française. Et son utilisation de la langue française était une utilisation complètement...
Bien sûr, de la regarder en surplomb.
Voilà, c'est ça. Et ça marchait, hein, ça marchait.
Patrick Chamoiseau, je crois qu'enfant, vous aimez aussi imiter votre frère aîné qui récite les vers d'Aimé Césaire. Si je vous dis, et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi.
ma main petite dans la sienne. Ça, c'est du Césaire. Mon frère, tous les matins, il saluait le lever du soleil avec, en déclamant Césaire. Ça a été précieux pour moi parce que je le voyais faire et j'ai été pendant longtemps persuadé que la poésie avait le pouvoir de faire lever le soleil. Donc.
Pas jusqu'à 11 ans quand même.
Ah, très, très, très tard. Et comme j'ai gardé beaucoup une sorte de poétique enfantine, parce que je pense qu'un artiste, la période d'imprégnation de l'enfance est déterminante pour un artiste, et j'ai gardé un peu cette poétique. Hein. C'est-à-dire que pour moi, l'expression fondamentale, primordiale, la plus puissante, le début du langage et de l'expression, c'est la poésie.
Patrick Chamoiseau, vous quittez ensuite la Martinique pour la métropole pour suivre des études juridiques et vous devenez ensuite travailleur social.
Voilà, j'ai ambitionné d'être avocat et après je me suis retrouvé un peu à travailler dans les prisons, à accompagner ceux qui avaient des problèmes d'insertion et de réinsertion. Et ça se comprend, parce qu'à Fort-de-France, j'étais d'une famille pauvre et j'ai côtoyé les quartiers populaires où tous les problèmes de précarité, de délinquance étaient très, très, très prégnants. Quoi.
En 86, vous envoyez deux manuscrits à Gallimard qui décide de vous publier. Votre premier roman paraît alors « Chronique des sept misères et de quelques douleurs », c'est le titre original. Suivra « Solibo magnifique » 2 ans plus tard. En 92, vous publiez « Texaco » pour lequel vous remportez le prix littéraire le plus important et le plus prestigieux de France, le prix Goncourt. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup Lisa Marie Marquez, j'adore cette idée de la boîte à pommes de terre avec tous ces livres dedans et toutes ces merveilles classées n'importe comment.
C'est génial.
Et c'est ça qui est fort.
Restez
avec nous, Patrick Chamoiseau, on va également parler du facteur cheval, on va parler d'Otoniel, on va parler de musique classique et on va parler de Patrick Chamoiseau. Culture Média continue.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Avec Patrick Chamoiseau, romancier, mais pas seulement, prix Goncourt 92, c'était pour Texaco. Baudelaire Jazz, c'est votre nouvel ouvrage, c'est publié au Seuil. C'est un ouvrage assez particulier, Méditation poétique et musicale avec Raphaël Imbert, c'est le sous-titre. Il y a un album numérique inclus. On peut se connecter, entendre la musique, on peut même entendre la musique et vous lire. On ne peut pas toujours. Parfois, c'est de la musique orchestrale, parfois, c'est chanté, et là, on ne peut pas tout mélanger. On va entendre un extrait de cette bande-son, si j'ose dire, c'est l'Albatros, poème de Baudelaire, faut-il le dire, mise en musique par Léo Ferré, mais c'est une autre version qu'on entend au chant Célia Kameni.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant, l'infirme. Semblable au prince dénué qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Peut-être un des plus beaux vers de la littérature française, ses ailes de géant l'empêchent de marcher, l'albatros dont les marins se moquent. Vous rendez dans tout cet ouvrage de Patrick Chamoiseau un hommage vibrant à l'oralité, au conteur et aussi au rire. Et ça m'a vraiment étonné, je me suis dit, que vient faire le rire ici? Que vient faire le rire chez Baudelaire et son albatros? Baudelaire et le spleen, et dans le jazz, né de l'esclavage.
Oui, c'est-à-dire que la puissance poétique s'exerce toujours sur une sorte de contre-emploi, une sorte d'impossible ou d'impensable. Pour Baudelaire, se positionner du côté du diable ou du mal, et fonder sa poétique ou toute sa poétique à partir du mal et du diable, c'était véritablement renouveler totalement l'expression. Et du côté du conteur, effectivement, dans la plantation esclavagiste, il n'y a pas de quoi rire, c'est vraiment un lieu de douleur et de drame. Par contre, il va prendre la chose la plus improbable et à partir de ce rire, cette mise à distance de la réalité, parce que fondamentalement c'est ça, être capable de rire de quelque chose, c'est se mettre à distance de la chose et commencer à la déconstruire. Donc le rire va devenir une force de résistance, une force de résistance poétique chez le conteur. Donc d'un côté, on a l'utilisation du mal et du diable et de l'autre, on a la chose improbable qui est le surgissement du rire dans la plantation esclavagiste.
Je pense aux élèves qui passent le bac français. Au passage, vous n'aimez pas qu'on fasse de Baudelaire le poète de la modernité, expression que j'ai lue 100 fois. Pour quelle raison elle vous déplaît, cette expression?
Non, c'est pas faux. Hein. Le problème, c'est qu'il y a énormément...
Ah mince alors, vous l'avez écrit, je me suis dit...
Il y a énormément de modernité. Hein. Je pense que ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir cette modernité de Baudelaire, d'une certaine manière, rejoindre la modernité du conteur créole. Dans la modernité de Baudelaire, il y a deux forces magistrales. C'est la force de l'individuation. Baudelaire se construit en tant qu'individu. Et c'est aussi la force du phénomène urbain. Là, on a véritablement le développement de la ville, pas la ville symbolique avec les grandes structurations, mais véritablement une sorte de développement urbain qui va complètement changer l'imaginaire urbain. Et du côté du conteur, les anciens Africains qui venaient de communautés ataviques très, très corsetées symboliquement vont se retrouver dans des situations d'individuation. Le jazz, c'est une musique d'individuation, parce que le jazz, c'est une musique d'improvisation. Et l'improvisation, elle est basée essentiellement sur ce que l'individu peut ressentir et exprimer. Donc là, la jonction était tout à fait possible.
On va rester dans la musique, mais pas avec de la musique improvisée. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour.
Au contraire, il y a de la partition, il y a de la partoche, comme on dit. Vous nous parlez aujourd'hui d'un opéra de Wagner, Parsifal. Ça démarre demain, le 24 mai, à l'Opéra de Paris. Représentation jusqu'au 12 juin. Et Lord d'Autriche, vous êtes allé dans les coulisses des répétitions à l'Opéra de Paris.
Oui, alors chez Wagner, tout est gigantesque. L'orchestre, les chœurs, les décors. Et dans les répétitions, tout le monde s'agit sur scène, en coulisses. Parsifal, c'est le dernier chef-d'œuvre de Wagner, créé en 1882, quelques mois seulement avant la mort de Wagner. L'opéra se déroule au Moyen-Âge, on a l'impression d'être dans un roman de chevalerie. Et pour diriger les 130 musiciens et chanteurs, la chef d'orchestre s'appelle Simone Young. Elle est australienne, elle est reconnue mondialement et elle le dit, c'est difficile de diriger du Wagner.
Diriger Wagner, c'est comme courir un marathon, c'est pas le sprint. Et oui, on a besoin de se préparer aussi physiquement. Et moi, j'ai eu un incident il y a quelques semaines. Et
à l'épaule ?
À l'épaule, oui. Et ça, je fais le physio, le kiné chaque jour. Et il faut mettre l'énergie et un sens de beauté et d'amour dans cette musique.
Ce qui fait que les opéras de Wagner sont gigantesques, c'est qu'ils composent à la fin du 19e siècle où l'orchestre est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant qu'un siècle plus tôt. Wagner, en fait, voulait faire de l'opéra un art total, donc mêlant musique, danse, poésie, décors gigantesques. L'opéra, finalement, poussait beaucoup plus loin que jusqu'à présent.
Et vous me disiez que c'est un opéra très moderne. Tiens, on retrouve ce mot.
Oui.
Pourquoi moderne ?
Alors, très moderne, parce que Wagner étudiait à la fin de sa vie le bouddhisme et on entend dans cet opéra de longs passages très calmes qui sont presque zen. L'opéra commence même comme une méditation et finit dans un monde lumineux. Ça, c'est tout à fait nouveau pour l'époque Wagner bouddhiste en quelque sorte. Alors, il écrit d'une façon, si vous avez déjà entendu du Wagner, il écrit d'une manière très lyrique, très foisonnante. Vous disiez les partitions pleines de notes, c'est exactement ça. Comment chanter du Wagner ? Réponse de Frédéric Guilleux, qui fait partie depuis 20 ans des chœurs de l'Opéra de Paris.
Le piège, c'est de ne pas trop chanter fort, parce que plus vous chantez fort, plus la voix baisse ou les sons sont moins justes.
À quoi ils servent les chœurs chez Wagner ?
Les chœurs, c'est souvent le peuple. Là, pour le coup, ce sont des gens qui viennent ponctuer l'histoire. C'est comme le chœur grec. C'est un personnage en lui-même qui vient exprimer son avis, comme le peuple.
Voilà, les musiciens ont la partition devant eux, mais les chanteurs, eux, doivent apprendre tout par cœur, hein, ils sont sur scène. Alors comment mémoriser des pages et des pages de notes ? J'ai posé la question à une chanteuse lyrique qui tient un rôle de soliste, Marie-Andrée Bouchard-Lesueur, mezzo-soprano de 29 ans.
Moi, d'abord, j'apprends le texte à blanc, comme on apprendrait une poésie, et c'est ce qui me permet ensuite de savoir vraiment où je vais dans le discours. Alors quand, moi j'ai de la chance de parler allemand un petit peu, donc c'est aussi plus un gain de temps, ça je dois l'avouer. Et ensuite on rajoute la musique, à force de répétition, enfin, ça se retient assez vite, même pour des très longs rôles. Alors évidemment c'est du travail, on ne va pas se leurrer.
Alors pour l'anecdote, cette chanteuse Marie-Andrée Bouchard-Lesueur, elle est très en vue aujourd'hui dans le monde lyrique et elle vient d'un petit village de Normandie. Personne dans sa famille ne faisait de musique. Non. Elle a fait des études aussi de sciences politiques avant de choisir une carrière de chanteuse, comme quoi beaucoup de choses peuvent mener à Wagner. Cet opéra, donc Parsifal, commence demain à l'Opéra Bastille, mise en scène de Richard Jones, représentation jusqu'au 12 juin.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Vous êtes client de musique classique ou pas du tout, Patrick Chamoiseau ?
Pas du tout. L'univers dans lequel j'étais aux Antilles, c'était un univers extrêmement musical. Beaucoup de musique des Caraïbes, la salsa, etc. Et la musique classique était utilisée pour une cérémonie très particulière qui est la cérémonie des avis d'obsèques.
Ah oui.
Et cette musique qui est très solennelle et très lente, etc., qui semble complètement étrangère à notre structuration rythmique, était utilisée dans tous les moments solennels, un peu lugubres, etc. Ce qui fait que j'ai toujours eu un rapport assez distancié comme la plupart des Antillais. Mais c'est vrai qu'à mesure que la poétique s'approfondit et qu'on commence à explorer, on retrouve cette musique. Je retrouve le jazz et puis je retrouve bien sûr le monde de la musique classique où il y a beaucoup d'improvisation au
Absolument.
Départ. Au départ, il y a beaucoup d'improvisation.
Au départ, il y en avait beaucoup, il y en a eu de moins en moins. Ensuite, tout était serré sur les partitions. Et juste avant qu'on nous le dise, pour tous les gens qui pensent qu'il ne faut pas écouter Wagner, parce que c'est un compositeur nazi. Wagner est mort en 1822, donc en un demi-siècle avant l'arrivée des nazis. Culture Média continue. On va parler d'art contemporain. Non, si, qui se mélange avec de l'art post-classique, peut-être un tout petit peu naïf. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
On parle de poésie, on parle de jazz, de musique avec Patrick Chamoiseau et on va parler avec vous, Camille Jounot, d'architecture. Le seul architecte à ma connaissance qui avait été reconnu par les surréalistes comme étant lui-même surréaliste sans même qu'il le sache. Où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui?
Joli teasing. Alors aujourd'hui, effectivement, je vous emmène dans le sud, dans la Drôme plus exactement. Et ce fameux architecte iconique, d'ailleurs n'est pas architecte, on va le voir après, c'est le Facteur Cheval. Je vous emmène au palais idéal du Facteur Cheval pour un événement exceptionnel. Le lieu accueille un des artistes français qui est le plus célébré aujourd'hui, Jean-Michel Autoniel. Alors Autoniel, il est connu pour ses installations monumentales en verre. Il y en a dans les plus grands musées du monde, à Tokyo, dans les jardins du château de Versailles. Mais avant de parler de lui plus précisément, déjà, bon, Philippe, vous le connaissez, vous me l'avez dit, le Facteur Cheval. Patrick Chamoiseau, est-ce que vous connaissez le Facteur Cheval?
Oui, un petit peu, hein, un petit peu.
Le palais, vous y êtes allé?
Pas encore.
C'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est indescriptible. Je compte sur vous pour le décrire.
Alors, c'est effectivement un endroit magnifique. Et en fait, Ferdinand Cheval est facteur de métier. Et à l'âge de 44 ans, il ramasse sur sa tournée un petit caillou de forme étrange. Et en fait, ce caillou, il le prend comme un signe du ciel. Ça agit sur lui véritablement comme un révélateur. Et il se met à bâtir un palais féerique. Aux 1000 recoins, il est orné de monstres, d'animaux merveilleux. C'est un endroit qui vous ramène complètement à l'enfance. Mais surtout, c'est un travail de titan. Parce qu'il va mettre 33 ans à le construire, le soir, après son boulot, en s'éclairant à la bougie. Donc, il montre vraiment une conviction impressionnante dans cet art.
Alors maintenant, il est vénéré à l'époque. Est-ce qu'il a du succès ?
Alors, dans son village, on le prend un petit peu pour un fou quand même. On se demande qui est cet homme qui ramène des brouettes de cailloux chez lui. Mais il va quand même connaître de son vivant une renommée internationale, notamment grâce à la presse américaine qui va faire son portrait. Et puis, il finit par séduire tout le monde, le grand public comme les artistes. On écoute Frédéric Legros, le directeur du palais.
Les enfants s'intéressent aux bestiaires et sont fascinés par ça. Les adultes, par l'histoire, par ces 33 ans d'épreuves. Et c'est vrai qu'on a autant... les plus grands artistes qui sont venus, Picasso, Dali, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, sont touchés par ce lieu.
Alors effectivement, il a fasciné les artistes et il continue de les fasciner aujourd'hui. Et Frédéric Legros a une merveilleuse intuition, invité Jean-Michel Autoniel. Alors je dis merveilleuse intuition parce qu'en fait, ce lieu n'est pas du tout étranger à Autoniel. Petit, l'artiste y passe ses week-ends et ses vacances, comme vous Philippe, il me semble. Et donc il a admiré maintes fois ce palais de ses yeux d'enfant.
Mais là quand même c'est un sacré enjeu pour un artiste de se confronter à une œuvre comme ça, iconique, connue dans le monde entier, même célébrée, vénérée dans le monde entier.
Absolument, c'est un monument au sens propre comme au figuré. Alors oui, du coup Autoniel accepte tout de suite parce que c'est un lieu qui lui est cher, mais en même temps il va tâtonner pour trouver la bonne manière de s'exprimer dans cet espace, jusqu'à ce qu'il tombe sur une lettre de Julia. Et Julia, c'est la bonne de Ferdinand Cheval. On écoute Autoniel nous raconter cette histoire.
Puisqu'il faut savoir que ce lieu était activé par des fontaines. Sa bonne était cachée dans la tour à jeter des seaux d'eau. Et ces seaux d'eau animaient donc les fontaines qui coulaient sur la façade. Et il y avait cette lettre qui restait où elle se plaint, où elle dit « Voilà, je vais rendre mon tablier parce que j'en peux plus de jeter des seaux d'eau. » Et moi, je me suis dit ben « Voilà, il faut réaliser le rêve du facteur, faire des fontaines et arriver, 110 ans après, ramener l'eau comme lui le faisait à son époque. »
Et donc, pour mettre en scène ce rêve, eh bien Jean-Michel Le Tonniel a imaginé un ensemble de fontaines et de constructions en verre soufflé de Murano et en briques translucides d'un bleu profond.
Alors moi, j'ai vu le palais, mais pas avec ce qu'on a fait au Tonniel. Ça rend bien, c'est beau.
C'est hyper beau. Mais bah déjà, le palais est magnifique, mais alors là, c'est magnifique au carré, en fait. Ouais. Et ça nous ramène à l'enfance, puisque, en fait, Otoniel a installé des œuvres dans des interstices, donc on est un peu dans une chasse au trésor, on fouille le palais. Et puis, c'est une expérience qui flatte aussi les sens. Il y a quelque chose de très sensuel dans cette eau qui ruisselle le long de la rondeur du verre, le verre qui chante par endroits avec les vibrations de l'eau, puis c'est très coloré, très joyeux. On a des contrastes de matière, donc c'est vraiment très bien réalisé. D'autant plus que Otoniel ne se trahit pas pour habiter cet espace. On reconnaît vraiment son travail. Et il peut se permettre d'être lui-même, car le facteur cheval et lui ont le même instinct poétique. La matière est différente, mais l'émerveillement est similaire.
Merci beaucoup Camille. Le rêve de l'eau de Jean-Michel Otoniel, c'est à voir au palais du facteur cheval dans la Drôme jusqu'au 6 novembre. Vous allez faire le voyage, Patrick Chamoiseau?
Ah ouais, dès que possible.
Vous avez le droit de me dire non, hein, si vous pensez non. Hein.
Non, j'ai prévu de le faire, mais un de ces jours, je ne sais pas quand.
Bon voilà, merci beaucoup. On continue, je vous salue Camille, on continue merci de parler avec Patrick Chamoiseau. D'une manière assez étrange, votre histoire, télescope, l'actualité et même la formation du nouveau gouvernement. Culture Média continue.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
On entend Black Atlantic au saxophone et c'est le chef d'orchestre aussi, c'est Raphaël Imbert. Vous co-signez presque ce livre avec lui, c'est pas vrai, vous l'écrivez Patrick Chamoiseau, mais on peut, il y a une référence pour aller écouter la musique tout en lisant, en écrivant. Livre qui parle de Baudelaire, mais aussi de l'histoire du jazz et aussi l'histoire de l'esclavage, de l'esclavagisme. Et je voudrais vous confronter à cette question d'actualité. Vous citez régulièrement dans ces pages Édouard Glissant, mais aussi Aimé Césaire, Frantz Fanon, des poètes, des écrivains de la diversité. Il y en a aussi qui les citent régulièrement. Il est au cœur de l'actualité, même au cœur de la polémique. C'est le nouveau ministre de l'Éducation nationale depuis vendredi, Pap Ndiaye. Est-ce que vous le connaissez ?
Non, je connais de réputation, mais je ne l'ai jamais rencontré.
Vous connaissez son travail, beaucoup de parallèles. Vous êtes le parrain d'un projet d'une maison contre les esclavages. Pap Ndiaye était depuis 2021 à la tête du Musée national de l'histoire de l'immigration. Vous avez écrit en 2017 « Frères migrants ». Et en 2009, une adresse à Obama. Et Pap Ndiaye a écrit en 2012 « Obama dans l'Amérique noire ». C'est étonnant même que vous ne vous soyez jamais croisés. Que vous inspire, vous vous doutez de ma question, que vous inspire la levée de boucliers depuis sa nomination toute récente, vendredi?
C'est la confirmation d'un phénomène qui est le phénomène du monde contemporain. Le monde contemporain, quelles que soient les nations dans lesquelles on se trouve, les absolus culturels, absolus linguistiques, absolus phénotypiques, sont aujourd'hui bousculés par l'irruption du monde et par l'irruption de la diversité du monde. Et les vieilles puissances coloniales sont aujourd'hui enveloppés d'une certaine manière par tous ces pays qu'ils ont rencontrés.
Vous voulez dire que c'est sa couleur de peau qui a généré cette levée de bouclier ou c'est ce qu'il raconte ?
C'est sa couleur de peau. Il est sûr que on a un imaginaire national, généralement chez les anciennes puissances coloniales, on a un imaginaire national qui est relativement monolithique. Et l'irruption de la diversité de manière déterminante, hein, pas de manière un peu accessoire ou secondaire, peut provoquer un certain nombre d'effois, ouais, quand on ne fréquente pas l'imaginaire de la relation.
Je suis étonné parce que vous dites, parce qu'il y a déjà eu des ministres noirs, hommes ou femmes, dans les gouvernements, de droite et de gauche, mais là, il occupe un poste central.
Ça, c'est l'éducation nationale.
Qu'est-ce que ça change, justement, Patrick Chamoiseau ?
C'est l'éducation nationale, c'est-à-dire que c'est à la fois la construction de la nation, mais aussi la construction de la nation, non pas de manière un petit peu absolutiste, mais c'est la construction de la nation en relation avec le monde. Et ça change tout. C'est vrai que les historiens ont été en première ligne. À mesure que l'histoire nationale s'est vue un peu défaite par l'irruption des histoires des peuples qui aujourd'hui se rejoignent, toutes les constructions nationales aujourd'hui doivent s'envisager en relation avec le monde. Comme on a eu les États-nations, maintenant on aura les nations en relation. Il est important qu'on ait quelqu'un comme ça à l'éducation nationale, parce que c'est la base. Quoi.
Double télescopage, je parlais d'historien, lui-même est historien, et vous parliez de la construction de la nation. Je vais citer Marine Le Pen qui a réagi à la nomination de Pap Ndiaye. Elle dit « c'est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays ». De ses valeurs et de son avenir, la déconstruction.
Bien sûr, mais on s'aperçoit que les États-nations, qui étaient des États-nations qui se constituaient d'une certaine manière une sorte de solitude au monde, sont obligés progressivement de basculer en état-relation. Ce qui va faire la puissance d'une nation dans les années qui viennent, c'est sa capacité à entrer en relation avec la diversité qui relève de son histoire, mais la diversité, la présence de toutes les cultures, toutes les civilisations et surtout toutes les individuations. Et les individuations sont les phénomènes les plus importants aujourd'hui dans le monde contemporain.
Dernière question, dernière citation à ce sujet, c'est Éric Zemmour qui voit en Pap Ndiaye un indigéniste, wokiste et obsédé par la race.
Oui, mais ce monsieur, ce monsieur-là a vraiment un imaginaire colonialiste. L'imaginaire colonialiste, c'était véritablement cet imaginaire qui pensait que le monde n'existait pas, que la diversité était un problème et que le métissage était une horreur. À partir de là...
10h56, on est un petit peu en retard, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les jours, il y a des stars qui viennent exprès pour notre invité. Et ce matin, justement, Laurent Deutsch, qui aime l'histoire, s'est intéressé à votre biographie, Patrick Chamoiseau.
Bonjour.
Bonjour.
Ah, Patrick Chamoiseau est né le 3 décembre 1953 à Fort-de-France, qui est une bien belle ville. Belleville ! Station située sur la ligne 2 du métro parisien, ouverte le 31 janvier 1903. Ah, Patrick Chamoiseau publie Texaco en 1992 et obtient le prix Goncourt. Goncourt, station de la ligne 11, ouverte le 28 avril 1935. Bon, ensuite, Patrick publie des romans, des essais, des scénarios et plusieurs œuvres sur le poète Aimé Césaire. Aimé Césaire, future station de la ligne 12 du métro qui sera inaugurée le 31 mai 2022.
Ah. Oui, bon, j'allais, Emmanuel Macron, personne s'est déplacé pour vous voir.
Monsieur Chamoiseau, bonjour. Oui, reprendre votre sieste. Pardon de vous le dire, mais dès que je rencontre un Antillais, qu'il soit de Guadeloupe, Martinique ou de Créteil, j'ai une furieuse envie de faire un selfie avec lui. Collé serré. Je me souviens de ce jeune intrépide, torse nu, collé à ma chemise blanche pleine de sueur. J'ai alors senti quelque chose de long et dur. Je me suis dit, encore un qui apprécie ma politique. Il était en fait en train de faire un doigt d'honneur. Je crois que j'ai encore un peu de boulot avant d'être aimé aux Antilles.
François Hollande est là pour vous.
Oui, bonjour. Monsieur Chamoiseau, votre livre éveille ma curiosité, car j'adore le jazz, une musique qui ressemble à mon action politique, une totale improvisation. J'étais moi-même à la tête d'un big band, le gouvernement héros. Il n'y avait pas un seul qui savait jouer. Outre le jazz, vous connaissez ma passion pour la Martinique. J'adore tout chez vous, le poulet boucané, la chic taille de morue, le gratin de banane jaune, même le McDo de Fort-de-France. J'aime aussi le boudin créole.
Oui, oui, on a compris, monsieur Hollande. Isabelle Balkany est avec nous dans ce studio ce matin.
Bonjour, monsieur Chamoiseau. Je vous appelle pas Patrick parce que ça va me faire trop de mal. Oh, mon Patrick. J'ai vu que vous êtes aussi conseiller d'insertion et de probation. Mais comme mon Patrick voudrait sortir bientôt, qu'est-ce que vous nous conseillez? De boiter? C'est bien, ça, boiter. Ça doit faire bien pitié, non? Sinon, pour la réinsertion, vous lui conseillez quoi, mon Patrick? Il y a des formations de pickpocket à Pôle emploi, monsieur Chamoiseau? Je compte sur vous parce que qu'est-ce qu'il me manque, mon Patrick? J'aime aussi les acras, le crabeau riz, les poissons frits. Bonne journée.
C'est bon, monsieur Hollande. Merci, Marc-Antoine Lebray. À demain. Merci beaucoup, Patrick Chamoiseau, Baudelaire Jazz. C'est publié chez Seuil. On vous le conseille et ça se lit et ça s'écoute. Culture Média, c'est terminé. On se retrouve demain à 9h. On va parler foot avec Hervé Matou. On va parler cinéma avec Thierry Lhermitte. Et juste après ça, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. Merci, à demain. Bonne journée.